24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition matinale du Monde aujourd'hui, au micro Idrissa Seloudia. En Centrafrique, 14 personnes, dont au moins 2 civils, une femme et un enfant, ont été tuées le 16 février à l'intérieur d'un édifice religieux à Bambari, en marge d'affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les groupes armés. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Amnesty International dans un communiqué. L'ONG, je cite, en appelle à appeler les autorités à protéger les civils et diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes sur les abus et les violations des droits humains perpétrés par des membres des groupes armés et des forces de sécurité. Le gouvernement centrafricain avait annoncé le 17 février la libération totale de Bambari et la capture de nombreux prisonniers, mais n'avait communiqué aucun bilan sur d'éventuelles pertes civiles et militaires. Par ailleurs, les forces pro-gouvernementales centrafricaines qui mènent une offensive contre les groupes armés ont repris mercredi le fief de l'ex-président François Bozizé, accusé de soutenir les groupes armés pour renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. Les rebelles sont sur la défensive depuis que l'armée centrafricaine et ses alliés, des militaires rwandais et paramilitaires russes, ont lancé en janvier une contre-offensive leur permettant de reprendre d'importantes villes aux rebelles. Quelques échauffourées ont éclaté mercredi au Niger, où l'opposition a revendiqué la victoire à la présidentielle après l'annonce officielle de celle de Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir. Nani Talani et notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa, y reviendront plus en détail. Au Bénin, l'opposant Bio Dramane Tidjani, un responsable du parti Les Démocrates, était toujours en garde à vue mercredi après sa convocation lundi devant une cour spéciale. Il est accusé de déstabiliser le processus électoral, a indiqué le gouvernement dans une allusion à la présidentielle d'avril. Cette détention a été qualifiée d'arbitraire et illégale par Rakiat Madougou à la tête du Parti des démocrates. C'est une des nombreuses preuves de la dérive autoritaire du régime actuel, a-t-elle ajouté. Le Ghana a reçu la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif international COVAX, destiné aux pays défavorisés. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le vaccin de Pfizer est efficace à 94% contre les cas symptomatiques de COVID-19, selon une étude de très grande ampleur réalisée en Israël et publiée mercredi dans le prestigieux New England Journal of Medicine, confirmant ainsi les données des essais cliniques et le rôle crucial des campagnes de vaccination pour mettre un terme à la pandémie qui a fait près de 2,5 millions de morts depuis fin décembre 2019. D'autre part, la société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé mercredi qu'une version modifiée de son vaccin, développé spécifiquement contre le variant sud-africain, était prête à être testée sur des humains dans le cadre d'essais cliniques. L'Agence américaine des médicaments a confirmé pour sa part mercredi l'efficacité du vaccin unidose de Johnson & Johnson, y compris contre des variants, sur la base des données des essais cliniques et ce, 2 jours avant une réunion de son comité consultatif pour examiner son autorisation aux États-Unis. Ce vaccin présente 2 avantages en matière de logistique. Il ne s'administre qu'en une seule dose et il peut être stocké à des températures de réfrigérateur classique et non de congélateur, ce qui facilitera sa distribution. Le président américain Joe Biden va bientôt parler pour la première fois au roi d'Arabie Saoudite et publier le rapport du renseignement américain sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, un rapport qualifié par les médias de potentiellement explosif pour le prince héritier et les relations entre Washington et Riyad. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La suite de nos informations, quelques échauffourées ont été signalées hier au Niger. L'opposition a revendiqué la victoire à la présidentielle après l'annonce officielle de la CENI, proclamant vainqueur Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir. Nani Talani.
L'ancien chef d'état-major des armées, Moumouni Bourema, a été interpellé à son domicile hier. Il est accusé d'être un meneur des troubles qui ont émaillé l'annonce des résultats. Il est réputé être un proche de Ama Amadou, opposant qui n'a pas pu se présenter, mais a soutenu la candidature de Maman Ousmane. La compilation des résultats des procès-verbaux en notre possession à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote nous donne gagnant avec 50,3% des voix, a affirmé l'opposant Maman Ousmane depuis son fief de Zender. Il promet de déposer des recours à la Cour constitutionnelle. Cette annonce a été suivie par quelques troubles à Niamey et à Dosso. Un large dispositif des forces de l'ordre était visible dans la capitale où les grandes artères ont été calmes. Si l'opposition a des doutes, elle doit pouvoir disposer de preuves à transmettre à la Cour constitutionnelle, a déclaré M. Bazoum. La CENI l'a proclamé vainqueur avec 55,75% des voix selon des résultats provisoires qui doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle.
En Côte d'Ivoire, l'ex-président et chef de l'opposition Henri Konan Bédié a appelé hier à voter massivement aux législatives du 6 mars. Il a associé à cet appel l'ancien président Laurent Gbagbo, désormais son allié. Le point avec Eric Manirakiza.
Le président Gbagbo et moi-même appelons solennellement tous les Ivoiriens épris de fraternité et de démocratie à participer aux élections législatives et ce massivement, a déclaré M. Bédié depuis son domicile d'Abidjan. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et le Front populaire ivoirien FPI ont formé une alliance en vue du scrutin. Nous devons donc prendre la majorité à l'Assemblée nationale pour éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans notre pays, réconcilier les Ivoiriens avec le retour des exilés, la libération de l'ensemble des détenus politiques et militaires, la mise en place d'un dialogue à tous les niveaux de la nation, a estimé M. Bédié. Laurent Gbagbo vit en exil à Bruxelles depuis son acquittement par la CPI en 2019. Le FPI a annoncé son retour en Côte d'Ivoire en mars. Kwadjo Konan Bertin alias Kakabé, ministre ivoirien de la Réconciliation, a annoncé il y a quelques jours sa prochaine rencontre avec M. Gbagbo à Bruxelles.
La Chine représente la plus grande menace pour les États-Unis, a affirmé hier William Burns, le candidat du président Joe Biden au poste de directeur de la CIA. M. Burns a promis de laisser l'agence de renseignement américaine indépendante de la politique. Nathalie Barge.
Sur une scène internationale de plus en plus compliquée et concurrentielle, l'attitude prédatrice du gouvernement chinois représente notre plus grand défi, a estimé William Burns lors de son audition devant la commission du renseignement du Sénat. La CIA a été visée par les services de renseignement chinois qui ont recruté plusieurs agents et diplomates. Il y a une dizaine d'années, Pékin avait réussi à démanteler un réseau d'informateurs de l'agence américaine en Chine. William Burns, s'il est confirmé, doit remplacer Gina Haspel, la première femme à diriger la CIA. Les démocrates accusent l'administration Trump d'avoir politisé l'agence. Les professionnels du renseignement doivent dire aux responsables politiques ce qu'ils doivent entendre, même si ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre, a déclaré M. Burns. Diplomate pendant 33 ans, notamment comme ambassadeur en Russie de 2005 à 2008, William Burns a pris sa retraite en 2014 avant de présider la fondation Carnegie pour la paix, dont le partenariat avec une université chinoise a été critiqué par certains sénateurs.
La Minute Éco, Nani Talani.
Les principaux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire et du Ghana doivent contrôler les approvisionnements et s'associer à d'autres pays producteurs s'ils veulent obtenir des prix plus élevés, a déclaré Michel Arion, le chef de l'Organisation internationale du cacao. Pour lutter contre la pauvreté des agriculteurs, Abidjan et Accra ont ajouté une prime fixe de revenus vital à leur vente de cacao. Mais leurs efforts n'ont pas été couronnés de succès et ils ont été contraints de compenser la prime en réduisant leur prix de vente. L'Afrique du Sud allouera 568 millions d'euros au programme de vaccination contre le coronavirus dans son budget annuel présenté hier au Parlement. Le gouvernement prévoit de vacciner les deux tiers de sa population de 59 millions d'habitants d'ici la fin de l'année. Il espère qu'une vaccination de masse va contribuer à stimuler la croissance à 3,3% cette année après une forte contraction de 7,2% en 2020. Pour terminer, en République du Congo, le district de Lekana, dans le département des Plateaux, vient d'être connecté au réseau électrique du barrage d'Imbulu. Le lancement de la ligne électrique Diombala-Lekana intervient après la connexion, en novembre dernier, des districts de Mfuati et de Bokosongo au réseau d'électrification nationale. Le barrage d'Imbulu a été construit et mis en service il y a 10 ans grâce à un financement en partie de la Chine.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans qui se joue en Mauritanie se disputent aujourd'hui, à suivre le choc entre le Cameroun et le Ghana, repêché en tant que meilleur troisième, puis place au derby maghrébin entre l'autre repêché, la Tunisie et le Maroc, vendredi. Le Burkina Faso joue contre l'Ouganda et la Gambie sera face à la République centrafricaine. Ligue des champions, CAF Al-Hilal du Soudan et le tout-puissant Mazembe de la RDC ont fait match nul 0-0 à Omdurman, laissant les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en tête du groupe B. Sundowns à 3 points, Mazembe 2 et le CR Belouizdad et Al-Hilal 1 point chacun. Les Algériens du CR Belouizdad et les Sud-Africains de Mamelodi disputeront leur match dimanche. Le match retardé aura lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie, après que les autorités algériennes ont refusé d'autoriser Sundowns à entrer dans le pays en raison de la réglementation sur le coronavirus. En Europe, le Real Madrid, longtemps en supériorité numérique, a disposé de l'Atalanta Bergame grâce à un but de Ferland Mendy en huitième de finale aller 1-0 en Italie, se rapprochant des quarts de finale de la Ligue des Champions. De son côté, Manchester City a dominé le Borussia Mönchengladbach 2-0 en huitième de finale aller à Budapest en Hongrie en raison des restrictions liées au Covid-19 en Allemagne. Bernardo Silva à la 29e et Gabriel Jesus à la 65e ont inscrit les deux buts anglais et permettent aux Citizens de prendre une option sur la qualification en quart de finale avant le match retour prévu le 16 mars. Ici aux États-Unis, la star du golf Tiger Woods ne sera pas poursuivi pour conduite dangereuse après la sortie de route dans laquelle il a été grièvement blessé aux jambes. C'est ce qu'a affirmé le shérif du comté de Los Angeles chargé de l'enquête sur l'accident. Une accusation de conduite dangereuse implique de nombreux éléments. Il s'agit ici d'un simple accident, a déclaré le shérif Alex Villanueva. Tiger Woods, 45 ans, a effectué plusieurs tours mardi après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur une portion de route pentue et propice aux accidents près de Los Angeles. Aucun autre véhicule n'est impliqué selon les premiers éléments de l'enquête. Les enquêteurs espèrent pouvoir compter sur des données extraites du véhicule conduit par Tiger Woods, un modèle de luxe et très récent, pour préciser les causes de l'accident.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le candidat de l'opposition, Mahamat Ousmane, revendique la victoire à la présidentielle de dimanche avec 50,3% des suffrages. Mardi, les résultats provisoires proclamés par la commission électorale donnent vainqueur Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, avec 55,75%. Des manifestations ont lieu dans certaines villes, dont Niamey, où l'accès au réseau Internet a été coupé. Yacouba Ouédraogo a joint mercredi notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Dans plusieurs quartiers, on a constaté des unités de chiens qui se levaient autour de la ville. Et des sources policières contactées par nos soins ont annoncé qu'entre hier soir et ce matin, il y a eu des arrestations dans les rangs de ces jeunes manifestants. Plus de 250 personnes sont arrêtées par la police. Globalement, on va dire que c'est calme parce que les jeunes, quand ils viennent dans les points de regroupement, ils essaient donc de dresser les barricades. Ils brûlent quelques pieds, ensuite les forces de l'ordre viennent et puis les dispersent, ensuite ils se transportent sur un autre lieu.
Est-ce que vous savez si les manifestations ont lieu uniquement à Niamey ou c'est à travers le pays?
En dehors de Niamey, la capitale, il y a encore, nous dit-on, quelques manifestations également à Dosso, ce qui existe, qui n'est pas très loin de Niamey, à 140 km exactement. À Zender aussi, le chef du candidat Mahamad Ousmane, aussi, il y a eu des manifestations depuis hier. Et jusqu'à ce matin encore. Nous étions il n'y a pas longtemps même en ligne avec un confrère sur place à Zender qui nous dit que les jeunes déclarent qu'ils sont prêts, les forces de l'autre côté disent qu'elles sont prêtes.
Mohamed Bazoum a été déclaré vainqueur par la commission électorale. Son concurrent Mahamad Ousmane conteste. Qu'est-ce qu'il apporte comme élément de preuve ou qu'est-ce qui lui fait dire qu'il a gagné les élections, parlant de Mahamad Ousmane?
Mais justement, depuis Zender où il est actuellement, Mahamad Ousmane, après la déclaration remise par son directeur de cabinet, peu avant la proclamation des résultats, lui-même dans la soirée, a fait sur place là-bas à Zender un point de presse devant les journalistes et il a déclaré effectivement qu'il conteste ses résultats, qu'il se déclare victorieux avec 50,3% des suffrages exprimés et qu'il va faire les recours nécessaires au niveau de la Cour constitutionnelle. Il proteste notamment, dit-il, contre les résultats de la région de Tawa, dans son ensemble, de Tagadé, mais aussi des résultats des zones nord de la région de Zender, sa ville natale, mais aussi de Maradi. Il n'est pas allé dans les détails des arguments qu'il a brandis.
Mohamed Bazoum a été déclaré vainqueur. Est-ce qu'il a tendu la main, par exemple, à Mahamad Ousmane?
Il a tenu effectivement un discours dans lequel il a remercié le peuple nigérien pour l'avoir donc porté ainsi à la tête d'habité pour les 5 prochaines années. Parlant donc de son challenger, parti Mahamad Ousmane, il a dit qu'il espère, il compte sur lui pour que l'opposition et majorité se retrouvent pour pouvoir gérer la fête. Pouvoir donc continuer la gestion de l'État. Donc on va dire, même s'il n'a pas dit exactement que le candidat, disons, le président de l'Imam et Bazoum Ahmed, a montré une certaine prédisposition pour travailler avec l'opposition et il a aussi indiqué qu'il va être le président de tous les Nigériens.
Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique, à Niamey.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, on est toujours à la recherche des personnes enlevées dans une école de Kagar dans l'état de Niger. Selon les autorités, des négociations sont en cours avec les ravisseurs. Un gang armé a enlevé 42 personnes, dont 27 enfants, d'un internat du district de Kagara. Dimanche, les 53 passagers à bord d'un bus de transport enlevé par des hommes armés dans le même état ont, eux, été libérés. Au sein de la population, ces négociations font l'objet de critiques, nous dit notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Les autorités nigériennes estiment que toute action militaire pourrait entraîner des morts inutiles. Alors le gouvernement a engagé des négociations pour sauver les victimes. Le gouvernement de l'État de Naija, où le rapt s'est déroulé, affirme qu'il avait pris des contacts avec les ravisseurs par l'intermédiaire des dirigeants des communautés qui, selon eux, les connaissent. Mais certains Nigériens, ne voyant pas d'un bon œil les négociations en cours, manifestent leurs inquiétudes.
Toutes ces petites négociations dans les coulisses en cours pour des rançons encouragent les mauvaises attitudes et aggravent la situation sécuritaire dans le Nord-Est. Juste en décembre dernier, nous avions vécu la plus mauvaise expérience lorsque plus de 300 enfants avaient été enlevés à Katsina.
Le fait de négocier avec ces gens les encourage. Comment nous expliquer ce qui va se passer avec les fonds du budget national qu'ils utilisent pour les négociations? C'est une forme de détournement de fonds publics. Je ne vois pas comment un gouvernement digne d'un pays doit aller négocier avec des criminels.
Un dispositif de sécurité impressionnant comprenant la police, l'armée et des unités d'agents de renseignement sont déployés pour aider à ramener les personnes enlevées. Pour Kabiru Adamu, expert en sécurité, dans cette circonstance, le gouvernement n'a pas le choix que de négocier.
Frankly, they don't have an option.
Honnêtement parlant, ils n'ont aucune autre option. Dans une circonstance où les élèves ont été enlevés et se trouvent dans les mains des criminels, il n'y a pas d'autre option. L'autre option, c'est adopter une stratégie d'une force tactique qui dispose de tout moyen capable, comme nous le voyons dans les films. Mais nous n'avons pas ces moyens chez nous.
Le dernier enlèvement de masse est survenu 2 mois après le rapt de plus de 300 élèves dans une école de Kankara, dans l'état de Katsina, l'état d'origine du président Buhari, alors que le président était en visite dans la région. Ils ont été libérés après des négociations, mais l'incident a déclenché l'indignation et les souvenirs des enlèvements djihadistes d'écolières nigériennes à Dapchi et Chibok qui ont choqué le monde. Le cardinal John Onayikan d'Abuja s'est dit préoccupé par la situation actuelle dans son pays.
Je me demande si nous voyons les choses de la même manière. C'est ma préoccupation majeure. Existe-t-il des gens qui ont un agenda caché? Le gouvernement est-il lui-même uni? Et lorsque je parle de gouvernement, je ne parle pas seulement du gouvernement fédéral, mais aussi des gouvernements des États et des autorités locales. Nous, les citoyens, nous voulons savoir ce qui se passe.
Les enlèvements ne sont que l'un des défis sécuritaires auxquels est confronté le gouvernement de Buhari au Nigeria, où les militants mènent une insurrection djihadiste dans le nord-est et les tensions ethniques dans certaines régions du sud. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, de nombreux parents, surtout dans les zones reculées, ne comprennent toujours pas l'importance d'obtenir un acte de naissance pour leurs enfants. Par exemple, à Mongo, dans la province du Guéra, la question se pose avec acuité. La situation préoccupe l'UNICEF Tchad, qui appuie le gouvernement dans la sensibilisation de la population sur la nécessité de déclarer la naissance des enfants dans les délais requis et l'importance de ce document de base. Explication de notre correspondant André Kotmadjingar en reportage dans la province du Guéra.
L'enregistrement des naissances dans la province du Guéra pose un sérieux problème par manque de sensibilisation. Les parents ont la tête ailleurs que de déclarer la naissance de leur enfant dans un délai requis, comme en témoigne Mahamat Adelil, père de 17 enfants, dont 3 seulement ont été enregistrés à l'état civil.
On ne l'a pas fait par négligence et parfois par faute de moyens. Parce que sortir un acte de naissance, il faut payer un 2000 francs. Parfois, là, ils ont aussi leur certificat de naissance là, qu'on délivre à l'hôpital. Là. Mais au lieu de les faire valider, nous, on les garde en tant que tel.
Pour amener la population à comprendre la nécessité de délivrer un acte de naissance à sa progéniture, le gouvernement et ses partenaires, notamment l'UNICEF dans son financement multisectoriel pour le bien-être de la population, ainsi que les organisations de la société civile, misent sur la sensibilisation. Des équipes sont passées dans les églises, mosquées et lieux publics pour parler de l'importance de l'acte de naissance aux parents. Une sensibilisation qui semble trouver un écho favorable. Mahamat Adelil affirme à VOA Afrique que deux de ses enfants sur 17 ont déjà eu leur acte de naissance.
Maintenant, on a su que l'acte de naissance, ça se donne gratuit. C'est pour cette raison-là que nous étions mobilisés et nos derniers enfants qui sont devant vous, là, ils ont leur acte de naissance. Les grands qui ont atteint un certain âge, ils en ont. Les petits également, ils en ont. mais ceux qui sont au milieu, là, ils n'en ont pas.
C'est aussi le cas d'Abdrahim Abdoulaye, père de 8 enfants, dont 3 ont eu leur acte de naissance grâce à cette sensibilisation.
Le premier enfant, c'est le chef de Carédien qui est venu, il a pris les données, après il est parti à la mairie pour nous chercher l'acte de naissance. Le deuxième, dès que mon enfant m'a accouché, je suis parti pour lui donner les renseignements, et puis il nous a amené l'acte de naissance. Et puis le troisième, c'est moi-même qui est allé vers lui, donc contenu de l'évolution et puis l'importance même de l'acte de naissance qu'on nous a fait savoir. Puisque l'acte de naissance, là, c'est là qui permet d'avoir la nationalité.
Pour Mme Nekarno Diomban Myriam, déléguée de l'action sociale de la province du Guéra, avec l'implication de l'UNICEF, la tendance est en train d'être renversée dans sa zone de responsabilité.
En 2015, on était à 7,8% de naissance dans la province du Guéra. Et depuis que notre partenaire UNICEF est en train d'appuyer la délégation provinciale de l'action sociale via les comités de protection, qui sont les mécanismes de protection communautaire de l'enfant, il y a eu des progrès assez remarquables. Maintenant, nous sommes à 38% d'enregistrement de naissance par rapport à l'année 2015.
L'enregistrement de l'enfant constitue un premier droit fondamental pour ce dernier, estime Mme Nekarno Diomban Myriam. À ce titre, elle invite tous les parents à enregistrer gratuitement leur progéniture dans un délai requis que de débourser beaucoup d'argent pour établir le même acte en dehors du délai accordé. André Kodumadingar, au pied de la reine du Guéra, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'UNICEF a acheminé ce mercredi 600 000 doses de vaccins anti-Covid à Accra au Ghana, en province de Mumbai. Il s'agit de la première livraison dans le cadre de l'initiative COVAX qui vise à fournir près de 2 milliards de doses dans le monde d'ici la fin de l'année. Au Ghana, 80 700 personnes ont été infectées par le virus qui a fait plus de 580 morts dans le pays. Nathalie Barge a joint Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF, pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
La date du 9 février était la première date butoir pour que les pays soumettent ce plan de déploiement. La plupart l'ont fait. Sur les 92 pays qui sont des pays de bas revenus qui vont bénéficier de l'initiative COVAX, 86 l'ont envoyé et ont été validés. Ensuite, ça devient une vaste opération de logistique. Donc, les États membres de ma région, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ont été particulièrement actifs et réactifs pour passer toutes ces épreuves. Et donc, il s'est trouvé que le Ghana, nous espérons une deuxième arrivée dans la région avant la fin de la semaine, probablement en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que nous avons déjà 5 autres pays qui ont été confirmés dans la liste des 27 pays de cette première phase.
Qui seront les premières personnes ou premières catégories de personnes qui pourront bénéficier de ces vaccins ?
Dans les plans de préparation et de déploiement des vaccins, l'un des chapitres qui doit être couvert, c'est justement l'identification des 20% de la population qui sont les plus vulnérables. Là, un COVAX, c'est à propos d'équité et de solidarité. Il faut identifier les personnes qui en ont le plus besoin. COVAX, avec nos 1,3 milliard de doses en 2021, on arrivera à couvrir que 20% des populations de la planète. Les groupes qui sont inclus sont les travailleurs de santé, ceux qui sont en contact avec les personnes positives, les personnes âgées et puis toutes les personnes qui sont atteintes de comorbidité qui les rendent particulièrement vulnérables. Cette discussion fait partie de l'étape de préparation. Et au Ghana, ça a été fait avec beaucoup de transparence. On veut absolument éviter que des vaccins arrivent et ne soient pas utilisés immédiatement. Je peux quand même vous confirmer que tout est presque tout à fait au point pour que la Côte d'Ivoire soit le prochain pays avant la fin de la semaine. Il y a 27 pays qui ont été certifiés prêts. Et dès qu'il y a des vols et des capacités d'envoyer les vaccins dans ces pays-là, l'opération COVAX continue de s'accélérer.
Ces doses de vaccins sont confrontées à des températures assez élevées, notamment dans les pays en particulier dont nous parlons. Donc au niveau de la conservation, est-ce que cela est compliqué pour gérer ces vaccins ?
Le vaccin qui vient d'arriver en Afrique, c'est le AstraZeneca Oxford. Et ce vaccin-là a besoin de la même chaîne de froid que les vaccins des programmes de vaccination nationaux classiques, contrairement à d'autres vaccins. Donc il y avait déjà une complication en moins. Nous travaillons, comme vous savez, auprès des ministres de la Santé dans tous les pays de la région, justement, pour mettre en place ces programmes de vaccination pour les enfants de façon pérenne et efficace. Et nous voyons cette initiative COVAX comme une autre opportunité de renforcer les formations, renforcer la chaîne de froid. Et depuis plusieurs semaines, vous avez vu des envois de seringues, d'autres matériels. Les choses se mettaient en place pour que tout soit prêt pour l'arrivée des vaccins. Donc oui, il y a des défis. En tout cas, dans tous les pays qui ont été déclarés prêts, il y avait une évaluation de cette chaîne de froid pour qu'elle soit à même d'absorber les vaccins qui vont arriver et de les garder en toute sécurité jusqu'à la fin de la campagne de vaccination.
Marie-Pierre Poirier, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.